Les parts actualités. Bonjour, comment allez-vous ? Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2017 et c'est Clotilde Saïe au micro de Canal M. Les titres aujourd'hui, la fin de la plupart des frais accessoires, hein, c'est le sujet dont tout le monde parle depuis quelque temps. Des discussions toujours en cours hier laissaient planer les incertitudes chez les médecins, les patients et notamment à la FADOC. Également à l'émission, un appartement intelligent au sous-sol de l'Université du Québec à Trois-Rivières et plus de soutien à domicile en Mauricie pour les personnes âgées. Et puis Alzheimer, un effet prometteur d'une molécule synthétique qui nous laisse un petit peu d'espoir pour la guérison de cette maladie. Il y aura également deux entrevues, comme tous les jours à cette émission, notamment avec Laurence Perrault-Rousseau, directrice de l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire, donc la CEPS. Et puis, nous tournerons aussi vers Catherine Patenaude au sujet du symposium des droits des enfants, adolescents et adultes présentant un trouble neurodéveloppemental ou d'apprentissage. Alors, la fin de la plupart des frais accessoires, des discussions toujours en cours laissaient planer les incertitudes chez les médecins et les patients, peut-on lire dans le Journal de Montréal. Héloïse Archambault et Boris Proulx ont signé ce papier. Confusion, anxiété, délai. L'abolition des frais accessoires qui entre en vigueur aujourd'hui au Québec générait encore hier soir énormément de questionnements auprès des patients et des médecins qui disent ne pas pouvoir garantir l'accès aux soins. Cette abolition signifie que les médecins de partout au Québec n'ont officiellement plus le droit de facturer aux patients plusieurs actes médicaux dès aujourd'hui. Sauf qu'après plusieurs mois de négociations, aucune entente n'était conclue en soirée hier entre Québec et les représentants des médecins sur les façons de les remplacer. Parmi ces frais, on retrouve ceux exigés pour les prises de sang et les endoscopies digestives. Et tant du côté de la population que des syndicats de médecins, des incertitudes persistent. Il ne faut pas prendre l'usager en otage, dit Claude Ménard, le président du regroupement des comités des usagers. Il y a énormément de confusion, la population ne comprend pas toute la problématique. Le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, a cependant assuré qu'il n'y aura aucune baisse de services, notamment en psychiatrie. La réponse, c'est non, puisqu'on met à la disposition des physiatres le même équipement. Pour ce qui est des optométristes, des dentistes, des pharmaciens, la vasectomie, c'est réglé. Les médecins spécialistes, eux, répliquaient que plusieurs dossiers n'étaient pas clos. On n'a pas donné de mot d'ordre d'arrêter des services, mais on ne sait pas ce qui sera permis et non permis, dit la docteure Franqueur, qui précise que l'argent n'est pas au cœur du problème. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, toujours en train de discuter avec le ministère de la Santé tard hier soir, a évoqué que ce dernier semblait prêt à faire preuve d'un peu plus de flexibilité sans vouloir en dire plus. Un point de presse était prévu pour ce matin. Un papier écrit avec la collaboration de Régis Caron. On réagit notamment à la FADOC, à cette nouvelle, l'abolition des frais accessoires, un peu de respect pour les patients. À quelques heures de cette abolition officielle des frais accessoires, donc c'est un communiqué qui est sorti hier, le réseau FADOC somme le gouvernement du Québec de mettre de l'ordre une fois pour toutes dans ce dossier. Pendant qu'on négocie sur la place publique, des malades ne reçoivent pas ou vivent sous la menace de ne pas recevoir les services auxquels ils ont droit et leur santé s'en trouve menacée. Des cliniques ont cessé la prise de rendez-vous, d'autres ont annoncé qu'elles passaient au privé ou qu'elles fermaient tout simplement leurs portes. On a aussi parlé de la fin de certains soins. Ce climat exécrable suscite des inquiétudes et même la confusion, sème la confusion, dénonce le président du réseau FADOC, Maurice Dupont. Les négociations se déroulent à coups de demi-vérité, d'enflure verbale et de menaces. Il est grand temps de revenir à l'essentiel, d'élever le débat d'un cran et de cesser d'utiliser les patients comme des pions dans ce débat. Rappelons que le ministre Barrette et le fédéral n'auraient pas bougé dans ce dossier si le réseau FADOC n'avait pas déposé en 2016 un recours en mandamus pour forcer Ottawa à faire appliquer la loi canadienne sur la santé et à faire cesser la surfacturation aux patients. Déposé en cour fédérale par maître Jean-Pierre Ménard, ce recours a été couronné de succès. La ministre Jane Philpott a acquiescé aux demandes du réseau FADOC, Québec a été sommé de mettre un terme aux frais accessoires qui vont à l'encontre de la loi fédérale, dont deux des piliers sont l'accessibilité et l'universalité. Il va y avoir prochainement un symposium, le symposium des droits des enfants, adolescents et adultes présentant un trouble neurodéveloppemental ou d'apprentissage. Et je vais, à ce sujet, m'informer pour vous auprès de Catherine Patenaude, qui est instigatrice et membre du comité organisateur de ce symposium. Bonjour, Madame Patenaude.
Oui, bonjour.
Alors, je suis contente de pouvoir vous parler ce matin au sujet de ce symposium. D'abord, il est né de quoi? D'une absence, certainement. Et quel est son but?
Oui, en fait, c'est né l'an dernier. Cette année, c'est la deuxième édition. C'est né d'une série de constats qui perduraient dans le temps, des enjeux que les parents vivaient, les parents, soit des enfants, des adolescents qui présentent justement des limitations, notamment en lien avec la bonne évaluation des besoins que leurs enfants ou leurs proches vivent. Donc, c'est ça, les parents étaient souvent devant de nombreuses démarches à faire, un système qui est complexe et on constatait qu'il y avait peu ou pas d'outils, où ils étaient peu ou pas outillés pour prendre des décisions pour rencontrer les besoins de leur enfant. Donc, le but cette année, ça va être vraiment de pouvoir mieux outiller ces gens-là pour qu'ils puissent vraiment mieux aider, c'est ça, leurs enfants.
Bon, alors, à qui ça s'adresse et à quel genre de questions vous vous attendez et quelles solutions vous leur apporterez? Vous leur apporterez.
Ça va être très important parce que le thème cette année, c'est les plans d'intervention, les besoins au cœur des pratiques gagnantes. Donc, ça s'adresse plus précisément aux parents, aux proches des personnes qui, comme on le disait tout à l'heure, ont des limitations. Donc, plus précisément cette année, ceux qui ont des plans d'intervention. Soit que ce soit des plans d'intervention au niveau scolaire, au niveau du réseau de la santé, des services sociaux, au niveau des recherches d'emploi, de l'employabilité et aussi des études postsecondaires, études universitaires. Donc, on va vraiment traiter de ces sujets-là. Et comme je disais tout à l'heure, notre thème, c'est vraiment les pratiques gagnantes. Donc, c'est certain qu'il y aura une multitude d'outils qui vont leur être présentés. Parce que oui, on peut parler des manques, mais il faut ensuite être constructif et aborder des solutions. Donc, c'est ça. Il va y avoir des conférenciers très importants. Des conférenciers. Mme Lorraine Doucet, qui est conseillère à l'inclusion scolaire et sociale et qui, plus précisément, est aussi récipiendaire du prix Droits et libertés et lauréate du prix Hommage de la Charte des droits et libertés. Donc, c'est vraiment une femme qui peut bien outiller les parents. Et on va aussi avoir des gens de l'Office des personnes handicapées du Québec qui vont vraiment pouvoir venir, là, c'est ça, outiller les gens. Donc, c'est ça.
OK. Parce que je pense aussi aux gens de la CEPS. D'ailleurs, je vais encore m'entretenir avec sa directrice aujourd'hui. J'imagine que vous connaissez la CEPS, hein, qui, eux, sont spécialisés justement pour venir en aide aux parents dont les jeunes vivent avec des manquements. Hein, on va appelons ça comme ça. Est-ce que vous les connaissez, madame? Non? Parce que je me dis...
La
CEPS. A-Q-E-I-P-E-I-S. Et pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de faire des fouilles archéologiques pour vous aider un petit peu plus. Mais voyez-vous, ici, je vais vous trouver ça. Voilà. La CEP, c'est l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire.
Oui. OK, excusez-moi, j'avais jamais...
Vous ne connaissez pas l'acronyme?
Oui, c'est ça, c'est juste l'acronyme. C'est ça, moi, dans le fond, c'est sûr que je suis maman aussi là, d'un enfant qui est autiste, puis je suis plus dans la jeune enfance, donc peut-être personnellement, je
connais
un peu
ça.
Moins, mais
d'accord.
Ça, c'est certain que c'est un point important, ça s'adresse vraiment pas juste aux enfants, notre symposium, ça va être aussi pour ceux qui sont rendus adultes ou aussi qui ont quand même des bonnes capacités, qui sont capables d'aller jusqu'à l'université, fait qu'ils pourront en apprendre à ce sujet-là aussi. Là.
D'accord, oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment symposium des droits des enfants, adolescents et adultes. Hein.
Oui,
c'est quand même très clair. Bon, en gros, les thématiques qui seront abordées, ce seront lesquelles, Mme Patenaude?
En avant-midi, on aura une conférence sur la peur des représailles. Parce qu'on se rend compte que, des fois, la peur que ça nuise à l'enfant quand il y a une insatisfaction va peut-être couper les gens dans leur élan de recherche de solutions. Ça fait qu'il y aura ce thème-là qui sera abordé. La compréhension commune des besoins aussi. On se rend compte que, bon, c'est ça, les besoins, on en parle souvent, qu'il faut intervenir en fonction des besoins, mais malheureusement, c'est souvent sur ce point-là que se trouvent les embûches. Oui. Donc, il y a Annie Bernier, qui est coordonnatrice au niveau du comité d'usagers du programme en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme, qui va pouvoir venir aborder ce sujet-là. Et c'est sûr qu'on va aborder aussi les balises légales des différents plans d'intervention. Oui. Donc, scolaire, dans le réseau de la santé, etc. Dans l'après-midi, ce sera divisé en groupes. On trouvait ça important de pouvoir répondre vraiment spécifiquement aux besoins des gens selon l'âge de la personne qu'ils aident. Oui. Il y a souvent des outils qui sont différents. On voulait y aller précisément.
Oui. D'accord. Et ça se passe où?
Oui.
Quand? Et ça coûte combien? Et est-ce qu'il faut s'inscrire? Ça fait beaucoup de questions. Hein?
Oui, mais ce sont pas très difficiles à répondre.
D'accord.
C'est à l'UQAR, à Lévis. Et ça s'adresse, dans le fond, à tous les gens qui sont sur le territoire de Chaudière-Appalaches. Même que je vous dirais qu'il y en a aussi là, de d'autres régions là, qui étaient intéressés, qui se sont inscrits.
D'accord.
Bon, alors, je le dis, il faut s'inscrire. Vous pouvez le faire en téléphonant au numéro de téléphone 418-248-3055 et parler à Mme Renée Hébert. Elle pourra vous indiquer là, de quelle façon il faut s'inscrire ou aller sur le site Internet d'Autisme Chaudière-Appalaches.
Autisme Chaudière-Appalaches, oui. Bon, tout simplement, parce que souvent, c'est parfois plus rapide de dire cela via le site Internet, je veux dire, d'aller s'inscrire via le site. Alors, ça se passe quand, Mme Patnaud?
Oui, j'ai oublié de donner la date, c'est très important. C'est ce samedi, le 28 janvier, à
D'accord.
partir de 9h, à l'UQAR.
À l'UQAR.
Oui, à l'Université du Québec, à Rimouski, le campus
Rimouski,
de Lévis.
C'est
le campus de Lévis. Là.
D'accord, très bien. Est-ce que ça a un coût?
C'est 15 $.
C'est 15 $, très bien. OK, c'est parfait. Ben écoutez, Mme Patnaud, j'espère que, de toute façon, je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de monde là parce que les interrogations sont grandes.
Oh oui!
Hein? Alors, je vous remercie beaucoup, vous et votre équipe, d'avoir mis ça sur pied. Je vous souhaite une belle journée et du succès pour samedi prochain.
Parfait, je vous remercie.
Je vous en prie, Mme Patnaud. Bonne fin de journée. Au revoir. Par actualité régionale, dans l'Hebdo Journal, on trouve ce papier écrit par Audrey Leblanc qui nous dit, et c'est tellement intéressant, j'espère qu'on pourra en parler directement avec quelqu'un ici à l'émission, qu'on retrouve dans le sous-sol de l'Université du Québec à Trois-Rivières, donc à l'UQTR, un appartement tout à fait unique. Au premier coup d'œil, tout semble normal, mais en portant attention, on découvre un environnement où la technologie est utilisée pour développer l'autonomie des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Dans ce laboratoire, les technologies toutes simples et peu coûteuses sont utilisées de manière créative. Presque tous les appareils électriques peuvent être allumés ou éteints à distance à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. Des cadres photonumériques servent à rappeler les différentes étapes d'une recette ou encore les étapes pour faire son lit. La pomme de douche lumineuse passe du vert au rouge lorsque l'eau est trop chaude. Sur un appareil relié au téléphone, des images illustrant l'hôpital, la police ou les pompiers sont apposées sur des touches qui permettent de composer rapidement un numéro en cas d'urgence. De petits détecteurs de mouvement indiquent le chemin vers la salle de bain la nuit et peuvent aussi guider une personne vers la sortie en cas d'incendie. Ce qui nous distingue, c'est qu'on travaille avec cet appartement-là dans une visée sociale et pas seulement dans une visée de développement technologique. La personne est au cœur de nos préoccupations, mentionne le chercheur Danny Lucier-Desrochers qui œuvre sur ce projet depuis 10 ans. Toutefois, M. Lucier-Desrochers est conscient qu'il n'est pas toujours évident d'apprendre à se servir de tous ces gadgets. C'est pourquoi le chercheur tente de sensibiliser les gens du milieu informatique et la population à cette réalité. Le professeur a développé, avec l'aide d'une équipe, une charte sur l'inclusion numérique et comportant 10 recommandations. Et de cette charte, sortie en juin 2016, découle un plan d'action sur 5 ans. Un plan qui, quant à lui, sera appliqué dès cet été. L'appartement intelligent développé à l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'UQTR, mènera à l'ouverture d'une maison adaptée à Montréal. Plus de soutien à domicile en Mauricie, 20 professionnels s'ajouteront aux équipes de soutien à domicile du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, autrement dit le CIUS-MCQ. Il s'agira principalement de travailleurs sociaux, d'infirmières et d'ergothérapeutes. Leur embauche fait suite à l'octroi de 3,9 millions de dollars par le ministère de la Santé et des Services sociaux en juillet. Par ailleurs, le CIUSMCQ demande aux résidences privées pour personnes âgées et aux organismes communautaires d'accroître leur offre. L'organisme souhaite aussi s'entendre avec des entreprises d'économie sociale pour sous-traiter du soutien à domicile. Le vieillissement de la population, l'augmentation des incapacités et la volonté des personnes de demeurer le plus longtemps possible à domicile rendent nécessaire cette bonification de l'offre. On retrouve de la CAPES, Laurence Perrault-Rousseau, la CAPES dont je parlais un petit peu plus tôt avec Mme Patenaud, c'est l'acronyme pour vous dire qu'il s'agit de l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire. Bonjour Mme Perrault-Rousseau.
Oui, bonjour Clotilde, ça va bien?
Oui, ça va bien vous-même.
Oui.
Bon, alors, on parle aujourd'hui d'une assistance, de l'assistance dont les parents et les élèves disposent pour le difficile passage, hein, la transition entre le secondaire et le cégep. C'est pas facile pour personne, mais pour peut-être des enfants ou des parents qui ont des enfants en difficulté, ça peut l'être encore plus. C'est bien ça. Alors, de quel type d'assistance dispose-t-ils?
Ben, en fait, effectivement, c'est un passage qui est assez complexe parce que tout le long du primaire et du secondaire de son enfant, le parent va être très impliqué dans le processus pour son plan d'intervention, etc. Oui. Et au cégep, on lui dit, ben non, maintenant, c'est que votre enfant, donc devenu adulte, qui doit s'occuper de son dossier. On ne peut plus vous communiquer d'informations sans son autorisation, etc. Donc, effectivement, c'est assez complexe parce que le parent se retrouve démuni et il a peur. Donc, nous, ça nous arrive que tes parents nous appellent pour qu'on s'assure que l'étudiant a ses accommodements comme il faut. Mais il n'y a pas beaucoup de recours. C'est-à-dire qu'en ce moment, on n'est pas dans une société qui encourage le même modèle qu'au secondaire ou au primaire. C'est-à-dire qu'il y a une équipe école avec des parents impliqués. Le parent, son recours, c'est de nous appeler pour que nous, on le rassure, en fait.
Oui.
Et que nous, on prenne contact avec l'étudiant pour faire la démarche avec lui. Pour le parent, savoir qu'au moins, il y a quelqu'un qui fait la démarche avec lui,
oui,
avec qui peut être
clair.
En contact, ça aide.
Ça, oui, effectivement. Mais est-ce que ça va plus loin qu'un entretien téléphonique? Est-ce que, par exemple, il y a des ressources qui les attendent une fois rendus au cégep?
Pour l'étudiant, il y a des ressources, mais pour le parent, non. Donc, oui, c'est un phénomène à prendre en compte, surtout avec la nouvelle génération où, vous savez, c'est la génération qui reste beaucoup à la maison.
Oui.
Donc, c'est une génération qui est beaucoup plus protégée, je dirais.
Oui, oui.
Donc, le parent est plus souvent inquiet et impliqué.
Oui. Et j'ai l'impression qu'ils doivent être même complètement démunis, quoi. C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire et que, ben, je veux dire, à part vous, hein, c'est bien ça. Mais vous, est-ce que vous êtes en contact avec les cégeps directement?
On est en contact, on a des contacts dans tous les cégeps, toutes les universités, avec certains conseillers, certains services pour
en faire plus, parce que qu'est-ce qui devrait être fait de plus?
C'est que la transition, nous, on va beaucoup dans les écoles secondaires. On est allé à quelques reprises dans les écoles secondaires, même si ce n'est pas notre mission principale, parce qu'on trouve ça important, de pouvoir dire aux élèves qui vont entrer au cégep les étapes à suivre.
Oui.
Donc, en fait, le défi, le besoin, il est là. C'est de prévenir, de dire aux jeunes...
Voilà ce qui va se passer.
Voilà ce qui va se passer. Voilà les étapes que tu dois suivre. Parce qu'il y a une logique dans les étapes qu'il doit suivre pour bien que son entrée au cégep se fasse bien, qu'il n'y ait pas d'échec, que les adaptations se fassent bien aussi.
Est-ce que vous prévoyez quelques actions prochainement pour informer la population, veiller à ce que l'information passe?
Nous, on continue constamment à faire des rencontres dans les écoles, à faire des choses comme ça, des entrevues pour rappeler aux étudiants quelles sont les étapes qu'ils doivent faire.
Oui, j'imagine que la CAPES est annoncée partout, dans les cégeps, dans les... Ils savent que vous existez, c'est ça que je veux dire.
Oui, ils savent qu'on existe. D'accord. C'est encore un travail, vous imaginez, ça fait 25 ans qu'on existe.
Ben, c'est ça.
C'est un travail continuel de rappeler qu'on existe, tout ça, parce que certains étudiants rendus au cégep, je ne suis plus handicapé, donc je ne suis plus en situation de handicap, tout va bien, donc je n'ai plus besoin de services et je n'ai plus besoin d'aucune association qui s'occupe des personnes en situation de handicap parce que je ne veux pas être identifiée.
Comme handicapée. Sauf que là, oups, la ville rappelle à l'ordre sûrement très rapidement. Hein?
Oui. Il y en a qui ont développé des belles stratégies pour réussir malgré qu'ils n'ont pas d'accommodement. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Il faut être réaliste. Ça existe. Ça existe peu, mais ça existe.
Ça existe, oui.
Mais...
c'est pas le cas de la plupart.
La plupart, ils font leur première session. En tout cas, certains font leur première session et se rendent compte que, réussir s'ils vont pas voir les services.
Bon, écoutez, Laurence Perrault-Rousseau, pour les parents en ce moment qui nous écouteraient, qui auraient bien besoin de vos services, on vous rejoint en faisant AQEIPS, donc
AQEIPS.QC.CA.
Donc AQEIPS.QC.CA pour vous rejoindre. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Ça me fait plaisir.
D'accord. Mais écoutez, passez une belle journée, Laurence. Au revoir.
Merci, bonne journée.
Amateur de sport, bonjour, j'allais vous dire, et vous serez sûrement content d'apprendre que Mac Marcoux est dorénavant champion du monde de descente en paraski alpin. L'Ontarien a décroché les honneurs au championnat du monde de paraski alpin à Tarvisio, en Italie. Il a défendu son titre mercredi en descente dans la catégorie des paraskieurs avec une déficience visuelle. En compagnie de son guide, Jack Leach, l'athlète de 19 ans, a réussi un chrono combiné de deux descentes de 1 minute 10 secondes. Il a devancé un Espagnol et un Slovaque. Il répète ainsi son exploit réalisé en 2015 en Colombie-Britannique. Marcoux, qui sera également du départ du Super-G jeudi prochain. Alzheimer, l'effet prometteur d'une molécule synthétique. Un traitement contre la maladie d'Alzheimer basé sur une molécule synthétique s'est révélé prometteur sur des animaux, indiquent des chercheurs de l'École de médecine de l'Université de Washington à Saint-Louis, aux États-Unis. C'est un texte qui nous vient d'Alain Labelle de Radio-Canada, en complicité avec l'AFP, l'agence France-Presse. Les protéines TAU contribuent habituellement au fonctionnement normal et sain des neurones du cerveau. Toutefois, il arrive qu'elles se rassemblent dans des enchevêtrements toxiques qui étouffent et détruisent progressivement l'ensemble des neurones perturbants, notamment la mémoire. Cette agrégation anormale dans le cerveau est caractéristique de la maladie d'Alzheimer et d'autres pathologies neurodégénératives actuellement incurables. Or, le docteur Timothy Miller et ses collègues ont montré que les niveaux de protéines tau peuvent être réduits par une molécule synthétique qui empêche leur fabrication. Mieux, certains des dommages cérébraux causés par les protéines tau seraient même inversés. Cette molécule est la première ayant pu inverser des dommages dans le cerveau résultant de l'accumulation de la protéine tau et ayant un potentiel thérapeutique chez les humains. Alors, ces molécules qui portent le nom charmant d'oligonucléotides, eh bien, ces traitements avec oligonucléotides ont récemment été approuvés par les autorités américaines pour deux maladies neuromusculaires, la myopathie de Duchenne et l'amyotrophie spinale. Des essais cliniques de phase 1 sont déjà en cours pour tester l'efficacité des oligonucléotides contre la maladie de Huntington et la sclérose latérale amyotrophique. La société Alzheimer, puisque j'en parlais, sachez qu'il va y avoir une séance d'information sur le crédit d'impôt pour les aidants naturels. Présentation des programmes et services destinés aux aînés, ça se passe à Victoriaville. Je m'aperçois que la date n'a pas été indiquée sur mon document. Je ne sais pas s'il y aurait moyen peut-être qu'on aille demander peut-être à mon recherchiste, Martin, s'il aurait la gentillesse de me donner l'information de la date de ce rassemblement à Victoriaville, au 40 rue Alice. Je vais donner un papier, voyez-vous, c'est un travail d'équipe ici. Également, j'ai toutes les informations. Le 28 janvier 2017, donc samedi prochain, il va y avoir un grand débat, Institut Santé et Société. Qui profite de la réforme en santé? L'animateur de tout cela, vous le connaissez bien, c'est Benoît Racette, qui est lui-même communicateur, promoteur de l'inclusion, administrateur d'organismes. Alors, cela va se passer à l'Université du Québec, à Montréal, au pavillon Sherbrooke, 200 rue Sherbrooke-Ouest à Montréal, donc samedi le 28 janvier 2017, samedi qui vient, de 9h à 17h. La réforme du système de santé et des services sociaux a-t-elle rempli ses promesses? Simplifier l'accès aux services pour la population, contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et accroître l'efficience et l'efficacité du réseau. Quel est l'impact de cette réforme sur l'accessibilité, la continuité et la qualité des services à la population? Est-ce que la nouvelle gouvernance contribue à l'atteinte de ces objectifs? Est-ce que les usagères, usagers et la population y trouvent leur compte? La réforme en cours respecte-t-elle nos droits à la santé, aux services publics de santé et à la démocratie? Dans le cadre de ce forum citoyen tripartite réunissant des personnes représentant la population et plus spécifiquement les usagères et usagers, ainsi que des personnes provenant du système de santé et de services sociaux et des personnes du milieu de la recherche, les objectifs sont deux. Mieux cerner les enjeux, évaluer les effets de cette réforme et en faire une lecture légitime, citoyenne et crédible relativement à la manière dont les services à la population en sont affectés. Favoriser la réflexion sur la gouvernance démocratique et la place qui occupe les citoyennes, citoyens et les usagères et usagers. Jeter les bases d'une démarche collaborative et citoyenne de vigilance et d'évaluation du système socio-sanitaire québécois. Repérer et identifier les indicateurs d'évaluation, des outils ou des mécanismes de veille des impacts de la réforme sur la santé de la population et le fonctionnement du système. Et finalement, convenir de stratégies d'intervention, de communication ou de recherche susceptibles d'améliorer les services, le système de santé et sa gouvernance. Alors, je vous rappelle que cela aura lieu samedi prochain à l'Université du Québec à Montréal, au pavillon Sherbrooke, au 200 rue Sherbrooke-Ouest à Montréal. La période d'inscription se fera entre 9h et 9h40. Accueil à partir de 8h30. C'était les Paractualités, animées pour vous par Clotilde Seille. Merci à mon équipe. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à lundi, 11h30.